BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Qu'est-ce que c'est sympa de vous retrouver. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, vous savez, pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est quand même sympa, on est très content, content de retrouver les invités, content de refaire cette émission, content de parler de ce dont on a parlé en première partie. En deuxième partie de l'émission, on va parler évidemment questions incontournables, hein, où vont les marchés. Est-il temps, c'est la question d'argent de la semaine, est-il temps de revenir sur les valeurs de croissance? Et bien, évidemment, on aura les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Et il y a des surprises, c'est marrant, enfin. Et les actions à acheter ou vendre. Alors les marchés, on y va, on fonce. Bon, bon, ça va mieux quand même. On s'est fait très très peur, hein. Rien n'est acquis, hein. Mais bon, le CAC en baisse de 7-8%, le DAX 10%, le S&P 16%, le Nasdaq quand même, hein, en baisse de 28,5% malgré son rebond fulgurant de la semaine dernière. Bon, voilà, en gros, on est dans un environnement fortement en baisse. C'est-à-dire, si on débarquait aujourd'hui, on se dirait « Ah ouais, quelle année pourrie !» Oui, mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a deux semaines encore, on regardait les chiffres. Alors, c'est un beau comeback des marchés. Mois d'octobre spectaculaire. Depuis quelques séances de hausse, hein, historique presque, hein, 7% sur le Nasdaq, quand il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et toujours la même interrogation, hein, Virginie Robert, est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que ça y est, on tourne la page? Le pivot, on a le pivot de l'inflation, on va avoir le pivot des banques centrales, donc il est normal qu'on ait le pivot des marchés, ou comme beaucoup le disent encore, de gens très prudents, ils disent non, attendez, c'est juste un rebond technique dans une tendance de fond qui est baissière.
Alors, ça peut être un effectivement, j'en sais rien.
Si vous en savez rien, c'est pas moi qui vais répondre.
Parce que je vais vous dire, les séances à plus 7%, ça, c'est éventuellement des rachats de short.
Qu'est-ce que c'est beau?
Mais oui, parce que ça fait du bien, effectivement. Ouais, mais il y a beaucoup de shorts quand même. Vous regardez certaines sociétés, elles sont très shortées. Donc,
shortées, ça veut dire des vendeurs à découvert, c'est-à-dire des gens qui jouent le fait que leur valeur.
Donc là, ils se remettent neutres. Bon, donc là, mécaniquement. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour qu'il y ait vraiment un rebond dans les marchés, il faut qu'on switch, enfin qu'on passe d'un modèle de, on appréhende les marchés sur le momentum à un modèle d'analyse fondamentale. Il y a quelques signes, on voit bien que là, vous avez vu cette semaine, Walmart a bien publié, c'est bien passé, Target qui est dans le même secteur, ça s'est mal passé. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une espèce de différenciation. Retour. Mais il y a encore 15 jours, il y avait deux sociétés dans le secteur des softwares qui avaient publié et tout le secteur a été planté sur la semaine. Donc, pour le moment, on n'est pas encore sur un marché très stable. Mais je pense qu'on est plus proche en tous les cas. Comme je dis, les signes noirs, ils sont passés. Et peut-être qu'il y a des signes blancs qui vont commencer à revenir dans le ciel. Donc oui, il faut commencer.
Donc,
de toute façon,
pas,
on ne peut pas faire
pas
tout blanc,
affirmer,
tout noir.
Comme Denis c'est... tout à l'heure, le pivot de l'inflation aux États-Unis, ça y est. Là, on n'a pas pivoté,
bon,
mais vous
racheter.
Dites...
Faut y aller,
on
oui.
peut commencer à racheter.
Bah, évidemment.
Bah, évidemment, est-ce que je sais, moi?
Oui, évidemment. En particulier sur les valeurs de croissance, parce qu'il y a...
Ah, on va en parler tout à l'heure. Non, c'est le thème d'après.
Ok.
William, les marchés...
On n'en sait jamais rien.
Oui, bah, ça, par principe. Okay,
par principe, donc c'est pour ça qu'on est toujours investi à 100%. Et donc, je conseille à tout le monde d'être investi à 100%.
Ouais, mais attendez.
Parce que généralement, les marchés montent. Faut jamais oublier
ça. Ok, William. On est à 100%. Ah, ça fait très très mal. Excusez-moi l'expression. Ça fait mal aux fesses, hein. Une année où, quand vous êtes investi à 100% sur le Nasdaq, vous perdez 35%. Oui.
Il faut jamais être investi sur le Nasdaq.
Ah, du tout?
Non, mais il ne faut pas investir dans les valeurs de croissance.
Ouh là 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 là, on va en parler tout à l'heure. Ah là là, il va y avoir un très beau débat tout à l'heure. Bon, les marchés, ça va rebondir ou pas?
Bah, les marchés, d'abord, ne pas oublier qu'il y a une guerre en Ukraine, que tous les États sont en train de se réarmer, que généralement, ça a toujours été bon pour l'économie. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste après le mois de février. Que par ailleurs, moi, je suis monétariste, donc je dis il y a énormément de monnaie partout. Donc, c'est un soutien pour les marchés, pour l'activité. Et c'est pour ça que, bon, la récession que tout le monde prévoit l'année prochaine, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle ait lieu. Et de toute façon, elle est déjà dans
les... Vous voulez dire qu'ils se plantent, les deux, là, Anna et Denis?
Non, mais bon...
Non, vous pouvez leur dire, hein, ils sont là, ils vous écoutent.
Vision,
hein. Vous pouvez leur parler. Hein.
Ma vision, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a la récession en 2023,
c'est trop tard.
Il faut garder la petite possibilité qu'elle n'ait pas lieu.
Oui, mais surtout que... Attendez, là, on va revenir là-dessus, puis je vais passer la parole deux secondes, même si on parle marché aux économistes, ils ont le droit d'en parler. C'est une récession qui est souhaitable. parce que, comme on vient de le dire, elle va permettre de réduire les déséquilibres, elle va permettre d'atténuer l'inflation. Donc, non.
Bah, ça dépend d'où elle vient. Si la récession elle vient que du consommateur, parce que en fait, malgré les aides étatiques, il perd du pouvoir d'achat. Oui, il va peut-être consommer un peu moins, mais comme je disais, de toute façon, on a une vague déflationniste sur les biens qui vient. Les services, peut-être, ça va aider les services à se calmer, même si aujourd'hui elles sont pas source d'inflation. Ouais. Donc tout dépend du de type de l'origine de récession. Après, effectivement, normalement, dans la durée.
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais ça ne va pas vraiment régler le problème d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la moitié de l'inflation, elle est drivée par les prix de l'énergie. Okay. Donc, tant qu'on n'arrête pas la guerre et qu'on ne trouve pas des sources alternatives énergétiques, oui, on peut mettre des caps et ça va faire baisser automatiquement l'inflation, mais ça ne change pas sa structure. Donc, ce n'est pas la demande aujourd'hui. Donc, on casse pour rien la demande, finalement. Et même si c'est une
récession pas la demande,
qui tire l'inflation à la hausse.
Un peu quand même. Je sais que vous l'avez bien.
Aux États-Unis, mais pas en Europe.
Un peu en Europe aussi, quand même.
Non, mais la seule chose.
On a eu un effet rattrapage post-Covid, on avait besoin de consommer.
Mais même aux États-Unis, je veux dire, le taux d'épargne aujourd'hui, il est moitié moindre que ce qui était avant la Covid, parce que les gens essaient de. Nous, non, pas encore. Et je pense que la seule inconnue de cette récession, c'est le marché de travail, effectivement. Tant qu'il va rester tendu, les gens garderont encore un petit peu de souplesse dans les dépenses, mais on perd à peu près 1,5% de points de pouvoir d'achat. Oui, on aurait pu perdre le double, mais quand même, on perd du pouvoir d'achat.
William, les sociétés, je comprends ce que vous dites, mais les sociétés, enfin, nous, on est sur le terrain aussi, elles commencent à souffrir quand même. C'est-à-dire les hausses des prix.
Jusqu'au troisième trimestre, les publications, on n'a pas vraiment de problème.
Jusqu'au deuxième trimestre, j'ai envie de dire. Le troisième trimestre, moi, depuis cet été, on sent un changement d'ambiance, notamment dans les PME, on sent qu'il y a des difficultés.
Sur la construction, oui.
Oui, mais pas que.
La distribution aussi.
Le digital, le secteur, même le secteur des services, il y a quand même une pression. Bah vous qui parlez à des entrepreneurs, vous n'avez pas senti un changement d'ambiance depuis
tout à fait. C'est en train de tourner, mais avec peut-être quelque chose qui a changé dans les chefs, chez les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que je le vois par exemple sur la question sur la trésorerie. On a sorti une enquête avec BPI France sur où on interroge des PME. Donc, c'est pas forcément celle que vous allez regarder sur les marchés, mais vraiment les petites entreprises. Et en fait, ils nous disent que la trésorerie est en train de se dégrader, ça va moins bien. Mais ça, c'est de l'appréciation qualitative. Quand vous regardez quantitativement le montant de cash que vous avez encore dans les entreprises, il n'y a aucun problème. Le cash est encore là, est encore très abondant, quand vous le comparez à l'engagement de dette qu'ils ont. Et donc, il y en a encore sous le pied. Mais c'est peut-être un peu comme si les chefs d'entreprise étaient habitués à vivre avec un niveau de cash très élevé. C'est parce qu'ils ont devant eux quand même
une incertitude, surtout en Europe. C'est leur épargne de précaution. Oui, c'est l'équivalent de notre épargne de précaution.
Et celle-ci, elle est quand même assez importante parce que combien vous allez payer votre électricité l'an prochain ? Personne ne sait le dire. Et donc, il y a une volonté d'avoir un niveau de cash beaucoup plus important que ce que l'on avait auparavant, et on peut donc avoir une perception de ce que la trésorerie se dégrade, parce qu'elle se dégrade par rapport au niveau désiré. C'est ça qui.
Et on n'a pas eu encore le choc de taux d'intérêt pour les entreprises en Europe, parce que les banques ont pas mal absorbé, et puis la BCE s'est mise à augmenter les taux en milieu d'année, donc ça va venir en première moitié 2023. Et ça risque de coûter plusieurs points de marge, surtout aux entreprises les plus endettées, et la France en fait partie, l'Italie, l'Espagne, donc clairement c'est un choc de profitabilité additionnel au choc énergétique.
Vous voulez rajouter quelque chose, William ?
Petit bémol là-dessus, c'est...
Vous faites que des bémols, vous.
Ouais,
vous êtes l'âme du bémol, en fait.
Non, mais... Par rapport à l'historique, les sociétés françaises cotées, en fait, ce que je regarde, n'ont jamais été aussi peu endettées. C'est impressionnant. La création monétaire, ça a des effets. La monnaie, elle se trouve à la fin dans les bilans des boîtes.